Mais la dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. C'est facile et pratique. Il suffisait d'y penser. Et déjà, vos élégantes ont remplacé la jarretière par le pinceau.
Donc les années 40, bah, beaucoup d'inventivité.
Beaucoup d'inventivité pour pallier au manque du quotidien.
C'est du bois des forêts que seront désormais ressemelées vos chaussures. Des plateaux de bois découpés, rabotés, arrondis à la toupie, deviendront des semelles qui seront dédoublées, façonnées, pendues à l'aide de scies multiples, afin d'acquérir de l'élasticité. Et en attendant des temps meilleurs, le cordonnier adaptera à la place de l'ancienne semelle de cuir ou de caoutchouc la semelle de bois des vieilles galoches d'autrefois, rendues cependant plus souples.
Tout manque. Hein, pourquoi les semelles de bois? Parce qu'il n'y a plus de cuir. Même la ficelle manque.
Oui, la ficelle manque pour effectivement entourer les bottes de paille. On n'a plus de ficelle. Donc il faut voir qu'ils sont confrontés à toute une série de problèmes et de confiscations autoritaires de leurs biens agricoles qui obligent à une inventivité incroyable. Alors juste par exemple un chiffre. Hein, en 1942, l'Indre-et-Loire produit 125 000 quintaux d'avoine. D'accord, donc indispensable à l'époque pour la nourriture des troupeaux, etc. 100 000 sont réclamés par l'administration centrale du ravitaillement pour alimenter Paris, ou qui partent en Allemagne, soit les trois quarts. En avril 41, par exemple, les Allemands demandent 728 bovins par mois. Or, le département n'en produit que 600. Alors, comment on fait? Tout est raflé. Il faut imaginer des gens qui vivent dans une pénurie incroyable. L'administration, alors c'est bien, parce que les sources alors là, sont chiffrées, on a tout, hein, il suffit d'aller voir.
Les archives sont impitoyables.
Sont impitoyables. Et dans l'Indre-et-Loire, par exemple, entre 1938 et 1942, on avait une comptabilité des bovins, etc. Alors, il y a moins 12 000 vaches, moins 3 500 chevaux, moins 4 000 moutons. Donc, on enlève à manger les vaches, on enlève le lait, mais avec les chevaux, par exemple, on enlève la force motrice essentielle dans les campagnes. On a vu qu'il n'y avait pas de tracteur, hein, ou quasiment pas de tracteur. Et donc, on enlève la force motrice et la capacité à produire de la nourriture. Donc, on est là dans un système agricole qui était déjà précaire, fragile, et qui est complètement désintégré, en fait, par la guerre, par manque d'hommes, par les pillages et par le manque de matériel agricole. Mais il y a aussi un autre point, c'est la ligne de démarcation. Si on regarde en Indre-et-Loire, par exemple, la ligne de démarcation coupe le département en deux, ce qui est un cas un petit peu singulier, hein, cette ligne de démarcation. Et la grande laiterie qui collectait le lait pour l'Indre-et-Loire est à Ligueuil, en zone sud. Mais la majorité des producteurs se trouvent en zone nord. Et le passage du lait de zone nord en zone sud est quasiment impossible. Alors les Allemands ont essayé d'assouplir un peu les choses, parce qu'ils voyaient que ça posait de vrais problèmes de conservation d'un produit qui était recherché et qui en plus se fait rare. Et là, des millions de litres de lait ont été perdus par des problèmes de conservation qui étaient liés purement à des problèmes administratifs. Donc il faut imaginer un paysage rural et agricole complètement dévasté. Et c'est là que va jouer l'ingéniosité et l'inventivité pour contrecarrer ce problème.
En bois, ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme de ce mot, dans mon cœur vient comme une chanson, c'est bon, ah que c'est bon, mais que c'est bon.
Il y a fort à parier que s'il les a chantés, des semelles de bois, la superstar Maurice Chevalier n'en a pas porté, lui. Chevalier, qui comme de nombreux artistes français, s'est fort bien accommodé de l'occupation et n'a pas particulièrement brillé par son action dans la résistance, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est un autre sujet. Retour à la propagande de l'époque.
Au lendemain de l'armistice, notre pays, qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires, fut coupé de ses principales sources de ravitaillement. Un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne le privait d'une grande quantité de produits de première nécessité. Frappée directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. équitablement la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
Alors Cédric, l'occupant nazi a pensé à tout pour que les gens puissent renouveler leur force de travail. Ils ont droit quand même à un certain nombre de calories par jour.
Oui, alors il ne fallait pas être très exigeant. Alors le pain, par exemple, en 1940, c'est 350 grammes par jour et par personne. On tombe à 300 grammes, donc ça fait une grosse baguette, quoi. Une baguette, c'est 250 grammes.
Il faut rappeler que le pain constitue l'essentiel de l'alimentation des gens de l'époque.
Et donc là, 300 grammes de pain par jour. Alors c'est une moyenne, hein, parce que là, je vous donne les quantités officielles auxquelles avait le droit la population avec les fameux tickets de rationnement. Tickets de rationnement qui, d'ailleurs, ont été mis en place dès 1939, avant même l'occupation. Hein. Déjà, on avait prévu que ça serait problématique et que la guerre serait difficile. Donc 300 grammes de pain, et on a droit par exemple à 100 grammes de viande par mois, donc 3 grammes de viande par jour. Vous avez droit à 40 grammes de fromage par semaine, donc 6 grammes de fromage par jour. Café, c'est 150 grammes par mois.
Et encore faut-il qu'il y en ait, parce que on a beau avoir des tickets, faire la queue, on n'est pas sûr d'être approvisionné malgré tout.
Effectivement, ce sont les quantités théorique disponible, mais comme on l'a vu avant, par exemple, toutes les vaches du département sont envoyées en Allemagne ou vers Paris.
Même pour les 3 grammes de viande, on peut repasser.
Voilà,
quoi.
Donc les 3 grammes de viande, vous pouvez ne pas les voir. Hein. Donc les commerces ferment. Dans les images d'archives, on voit plus de pain, plus de lait, plus de ceci, plus de cela. Évidemment, parce que malgré vos tickets, ça vous donne le droit d'acheter. Mais il n'y a pas forcément la quantité disponible chez le marchand.
Et alors quand on arrive à toucher le produit, encore aussi faut-il évoquer la qualité du produit en question. Moi j'ai entendu parler d'histoires de pain où il n'y avait pas que de la farine, il y a de la sure de bois.
De la sure de bois, tout ce qui pouvait traîner. Effectivement le pain est de très mauvaise qualité.
On parle de pain noir.
Oui. Je me rappelle toujours de mon grand-père, effectivement la mode était au pain noir dans les années 80-90. Et lui il repoussait ça en disant oh là là c'est bouffé par la hyère cette saloperie, on veut du pain blanc, d'accord, du pain avec du blé bien blanc, sans écorce, sans rien. Voilà. Effectivement le pain noir il appelait ça le pain de boche, d'accord, il voulait pas le voir le pain de boche, ça c'était pas possible.
En revanche les innovations dans le sac sont surtout utilitaires, il comporte des poches pour tickets d'alimentation. On aime les sacs de grand format. Et ce modèle s'appelle tout simplement Marché Noir. Qui dira ce qu'ont pu contenir les sacs des élégantes de ce temps? Plus de beurre en tout cas que de rouge à lèvres.
En fait, pour être sûr d'avoir quelque chose dans les magasins, les personnes un petit peu aisées achetaient les services de ce qu'on appelait une queutière, qui faisait la queue pour vous avec vos tickets, alors qu'ils se levaient très tôt le matin. Et qui prenaient des tickets de caisse de 2-3 personnes un peu riches. Et c'était leur métier, elles faisaient la queue hein, pour être les premières à les choper et essayer d'avoir quelque chose dans les magasins. On affiliait aussi les gens à certaines boutiques pour essayer de rationaliser au maximum. Mais on s'aperçoit que cet effort de rationalisation de la part de l'administration est complètement vain et finit par être complètement absurde, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas les produits, on voit un système très administratif, très bien organisé, avec des bons, des coupons, etc. Mais ça tourne à vide, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bouffe, tout simplement, il n'y a rien à vendre. Et donc forcément, les gens, là, bah, ça va être Marché Noir, Ersatz, ça va être Système D, pour tenter de trouver de la nourriture.
Le Marché Noir, hein, c'est acheté sous le manteau. Alors peut-être que les plus jeunes auditeurs vont peut-être rigoler quoi, à l'idée qu'on puisse vendre du beurre ou un saucisson comme aujourd'hui on vendrait de la drogue.
Ben oui, mais c'était exactement ce qui se passait. Ça prenait tout un tas de formes différentes. Soit c'est le producteur qui allait vers les consommateurs, soit le consommateur qui devait aller chez les producteurs à la campagne pour récupérer les produits. Mais par exemple, en avril 40, un kilo de sucre, ça coûtait 7 francs. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier un peu qualifié, etc., gagnait 700 francs. 7 francs, un kilo de sucre, c'était relativement démocratisé. Hein, ça, c'était plus le produit luxueux de la fin du 19e. Les gens pouvaient consommer du sucre. Un kilo de sucre se vend en février 44 au marché noir 155 francs.
La moitié d'un mois de salaire d'un ouvrier.
Voilà, exactement. Donc, c'était devenu un produit complètement intouchable sur le marché noir et sur le marché officiel. Alors, en théorie, vous aviez droit à 500 grammes par mois, mais ils n'existaient pas, 500 grammes. Vous ne les aviez plus. Les prix étaient réglementés. Quelqu'un qui vendait du sucre n'avait aucun intérêt à le vendre sur le marché légal, parce qu'il vendait à prix plafonné et légalisé par l'État. Donc, bien sûr, il essayait de cacher le sucre et de le vendre au marché noir, où là, il gagnait énormément d'argent.
Agriculteurs, vous avez encore chez vous un ou plusieurs sacs de blé. Livrez le plus tôt possible ces fonds de grenier qui suffiront pour combler le déficit. Sachez-le bien, ils ne seront affectés qu'à la soudure. Paysans, vous n'hésiterez pas à faire volontairement l'effort qui vous est demandé. Acte décisif de solidarité nationale. La mobilisation du blé est commencée.
Toutes ces histoires, effectivement, de soustraction de produits au marché officiel pour être vendus sur le marché noir, ça fait naître d'énormes tensions dans la société française, notamment entre les ruraux et les urbains. Les urbains reprochant aux ruraux de s'engraisser et de cacher de la nourriture qu'ils revendaient ensuite au marché noir.
Alors on a tous entendu un petit peu, je ne donnerai pas de nom, hein, mais il y en a de célèbres, de fortunes qui se sont bâties très très rapidement, hein, entre 40 et 44, sur la pénurie et le malheur des autres. Il y a des gens qui s'affichent comme de bons Français, qui ont amassé beaucoup d'argent pendant cette époque.
Mon grand-père était bijoutier. Il était bijoutier à Châteauroux, donc c'était en fait juste derrière, c'était en zone sud, mais pas très loin de la ligne de démarcation. Et il a raconté, non sans une certaine honte, comment il avait vu des gens arriver dans sa boutique, alors le soir, au moment de la fermeture, ou très tôt le matin, demandant un rendez-vous, si possible, nocturne, etc., lui apportant des bijoux, qu'il a acheté pour des bouchées de pain avec des billets, mais lui-même, en fait, il devait utiliser ensuite ses bijoux pour aller acheter du lait au marché noir. Donc, il utilisait le malheur de certains. Il dit notamment, j'ai vu des familles juives qui devaient être assez fortunées, qui devaient vendre absolument tout ce qu'ils avaient pour avoir un peu d'argent pour essayer d'atteindre la frontière espagnole, hein, sûrement. Et lui-même ensuite se faire dépouiller de ses bijoux pour aller acheter du lait. Voilà. Donc il y a toute une espèce d'économie parallèle, totalement mafieuse, qui se met en place sur une base de pénurie et de réglementation complètement absurde du fait des pénuries.
Ça crée des tensions dès l'occupation et ça laissera des traces.
Les règlements de compte à la libération, en fait, on s'aperçoit que derrière les règlements de compte purement politiques, hein, où on va aller se taper le collabo du coin qui a ouvert un peu trop sa gueule, hein, pas les vrais responsables ils se sont barrés, ou bien ils ont été assez malins pour changer de bord au dernier moment, mais le collabo un peu grande gueule du coin, effectivement, qui va avoir des problèmes, mais aussi surtout des règlements de compte liés à cette question du marché noir. On va régler ses comptes avec les paysans du coin qui se sont engraissés sur votre dos et sur votre malheur. Il y a énormément de rancœur. Là aussi, l'histoire n'a pas été totalement faite là-dessus. Hein. Il y a du travail à faire. Comme tu le disais, il y a des fortunes qui sont constituées, hein, d'énormes fortunes qui sont constituées à partir de ce trafic du marché noir. Hein.
Cela se chantait à l'époque. Elle avait des semelles de bois. La semelle dite compensée est la première compensation accordée à la nation. Pas un gramme de cuir dans tout ça. Il faut le faire. Vous vous souvenez de la mode 40 que vous venez de voir. Elle manquait d'esprit, mais non pas de matière. Pure laine, pure soie, pure cuir. Mais dès 1941, nous entrons dans le domaine des produits nationaux. Un produit national, c'est quelque chose qui est fait en une autre matière que la sienne. C'est ainsi que les semelles vont devenir nationales. Étrange époque où national est synonyme d'ersatz. Les semelles ne sont pas encore pur sapin, mais les robes sont déjà pur peuplier. Et le tapis lui-même est en genêt armorica. La France est en train de changer de visage. Mais la Parisienne sera toujours la Parisienne. Tous les regards convergent sur ses jambes. Le nylon est déjà inventé, ailleurs. Mais pour rayonner, la Parisienne doit prendre sur soi. Chacun sait depuis toujours qu'un rien l'habille. Il s'agit de sauver la face. L'escalade de l'illusion est commencée.
C'est incroyable, l'inventivité. Il y a des livres entiers, hein, qui vous expliquent comment économiser l'énergie en faisant cuire de telle ou telle façon les œufs, etc. Et aussi pour remplacer les produits devenus courants
qu'on va remplacer par des, ce qu'on appelle des ersatz. Hein, le mot allemand est resté. Hein,
À tout consommateur, un mot d'ordre s'impose. Se restreindre. N'ouvrez le robinet qu'après avoir enflammé votre allumette. Et fermez-le avant de retirer le récipient. L'eau qui bout à gros bouillon n'est pas plus chaude que celle qui frémit. Baissez donc votre gaz. Recouvrez vos casseroles et devenez ingénieux. Nettoyez fréquemment vos brûleurs. Sachez qu'une douche dépense 10 fois moins de gaz qu'un bain. Ne laissez pas brûler des veilleuses inutilement. À l'effort du mineur doit correspondre l'effort du consommateur. Surveillez votre compteur.
Les matières grasses, on a droit à 40 grammes par semaine. 40 grammes par semaine de beurre ou d'huile. Donc, ce qui était indispensable pour faire cuire les aliments, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour faire un ersatz d'huile qu'on ne trouve pas ? Dans les campagnes, on va faire de l'huile avec des noix, des pépins de citrouille, enfin, tout ce dont on peut tirer de l'huile, on va essayer d'en tirer. Ou bien, je vous conseille une petite recette. Alors, vous manquez d'huile. Comment faire ? Vous mélangez, alors, j'ai pas les proportions, hein, de l'eau, du vinaigre, de l'ail et de la fécule de pomme de terre. Et avec ça, vous pouvez obtenir un semblant d'huile. Enfin, je sais pas, ça va pas être très très bon. Alors là, on voit vraiment l'esprit d'inventivité. On imagine les dames et les messieurs en train de faire des mélanges pour avoir un truc qui ressemble à de l'huile et qui permet de faire cuire les aliments aussi. Il y a ça. Et bien sûr, il y a un autre grand problème. On n'a plus de pesticides, on n'a plus d'engrais. Et donc, on avait commencé déjà à évoluer vers des productions de plantes qui avaient besoin d'engrais, de pesticides, etc. Et la période de l'occupation, c'est un retour à ces légumes qui étaient déjà oubliés ou qui déjà avaient été rétrogradés au stade de nourriture pour animal, mais qui ont une qualité, c'est qu'ils sont extrêmement robustes, n'ont pas besoin d'engrais, n'ont pas besoin de pesticides et poussent dans à peu près n'importe quelle condition. Alors, ça a laissé une trace là aussi dans le vocabulaire français. Hein, l'un des surnoms donnés aux Allemands, c'est les doryphores.
Et voici qu'au moment où la pomme de terre va sauver les Francs de la famine, nous sommes victimes d'une invasion de doryphores. Puisque le doryphore est l'ennemi de la pomme de terre, il est aussi l'ennemi de la France. De là à faire de doryphore le synonyme de l'allemand, il n'y a qu'un pas qui est aussitôt franchi. Ce qui est sociologiquement fort intéressant. On lutte comme on peut contre l'envahisseur.
Le doryphore, c'est cet insecte parasite qui mange la pomme de terre.
La pomme de terre est un légume absolument extraordinaire. Ça pousse n'importe où, ça a besoin de rien, ça a besoin du sable. Ça a un seul ennemi naturel, c'est le doryphore. Alors, ce qui avait entraîné la famine irlandaise hein, en 1848-49, hein, enfin, avec l'aide des Anglais qui ne leur ont pas envoyé de blé, mais ça c'est autre chose. Mais les doryphores, bah, il faut médeciner, il n'y a pas de choix. Hein, il faut médeciner pour éviter que les doryphores se foutent sur les patates. Sauf qu'on n'a plus les usines chimiques. En France, pendant l'occupation, on n'a plus de quoi épandre des produits pour tuer les doryphores.
Les usines chimiques fabriquent autre chose.
Et donc les doryphores, je pense qu'on va évoquer des souvenirs chez les plus âgés. On envoyait les enfants à l'école écraser les doryphores dans les champs de patates. Et le terme de doryphore est resté pour parler des Allemands. C'est l'un des très nombreux surnoms péjoratifs des Allemands.
Alors, il y a Schle, les boches, les vers de gris.
Casque à pointe, les frites, etc., etc. Chose intéressante, c'est que du côté allemand, il n'y a pas de nom péjoratif pour les Français. Assez bizarrement.
Par ces cochons de Français.
Ces cochons de Français, mais il n'y a pas de nom péjoratif pour les Français, c'est assez bizarre. Alors que, effectivement, dans le vocabulaire français, c'est perpétué encore la mémoire de ces termes employés. Et donc, la pomme de terre est sujette à être attaquée par le doryphore. Donc on peut prendre par exemple le rutabaga. Et bien le rutabaga, ça résiste à tout. Le topinambour aussi, mais c'est excellent le topinambour. Et ça pousse assez vite, ça pousse très bien, ça ne nécessite pas beaucoup de soins. C'est absolument formidable comme produit. Alors bien sûr, si vous en mangez tous les jours, c'est un peu problématique. La deuxième chose, c'est que c'était déjà à l'époque, en 1940, des légumes qui étaient donnés aux animaux. Alors effectivement, pour les Français, manger ça de façon quotidienne, c'était aussi mentalement être avalé au rang d'animal. C'est pour ça que ça a laissé une mémoire absolument déplorable sur ce sujet-là. Ce sont des légumes qui ensuite ont été complètement oubliés. Alors ensuite, dans les Trente Glorieuses, forcément.
Lors d'une mission en France, le feld-maréchal Göring déclarait en substance « Les Français ne songent qu'à manger. On ne peut rien en attendre de bon. » Avant lui, le maréchal Pétain avait dénoncé ce fameux esprit de jouissance qui nous a fait tant de mal. Et maintenant, où en sommes-nous de ce point de vue-là? Nous en sommes aux distributions de boissons chaudes qui préservent les vieillards de la mort. Pendant ce temps, les prisonniers se racontent des recettes de cuisine pour améliorer leur dîner. Et les enfants? Ils sont là,
Ils poussent tant bien que mal, mais ils poussent.
C'est vrai, quand je repense à mes grands-parents qui ont connu cette époque-là et qui ont connu après la prospérité économique de cette époque dite des Trente Glorieuses, avoir de la viande tous les jours à table, bah, c'était un truc formidable. Nous, gamins, on se rendait pas compte. Ça nous... voilà, ce n'est qu'après que j'ai compris ce que ça voulait dire pour les grands-parents que d'avoir de la viande sur la table et du fromage.
On peut lire un certain nombre de comportements qui ont pu nous paraître un peu bizarres. Il faut comprendre cette mémoire de la guerre qui a été très prégnante chez des gens qui l'ont vécu soit en tant que jeune adulte, mais surtout qui l'ont vécu en tant qu'enfant. Donc, ce qui nous ramène à des générations qui sont encore vivantes aujourd'hui.
Et un autre truc qui me fascinait quand j'étais gamin, c'est pourquoi est-ce que mamie avait 23 bouteilles d'huile, 15 kilos de sucre dans son armoire.
Voilà, j'allais venir. Évidemment, pour nous, ça semblait stupide. Mais au supermarché, on achète une bouteille et on revient, quoi. Non, un, on stocke parce qu'on a toujours peur de la pénurie. Deux, on veut mettre de la viande tous les jours. Quand quelqu'un vient, on lui sert de la viande, voilà, en disant voilà. Et moi et ma grand-mère faisaient aussi un truc, c'était autre réflexe. À la fin du repas, il restait des miettes sur la table et elle balayait les miettes. Alors nous, on les balançait aux oiseaux, les miettes. Oh, en grand malheur, elle avait une petite boîte en fer et elle ramassait les miettes, elle les mettait dans sa boîte en fer et elle en faisait du pudding. Et elle récupérait tout, comme ça, un fond de lait. Un fond de lait, voilà, il reste... voilà, on a bu son bol de lait, il reste un tout petit peu de lait, on le fond, on le balance. Oh là là, non.
Quoi, tu fais ça, toi?
On le récupérait, on le remettait dans l'autre bouteille, enfin, on se débrouillait et on accumulait le lait. Alors à la fin, qui était plus bon, mais on le faisait bouillir. Alors, on n'allait pas le jeter, hein. On allait le bouillir et avec les miettes de pain, on faisait effectivement avec un œuf, voilà, puis on faisait un pain perdu, c'était très bon d'ailleurs. Voilà, c'était ce genre de réflexes qui sont induits par effectivement des pénuries graves, lourdes, dont les gens très longtemps n'ont pas parlé parce qu'ils voulaient les oublier. Et ils n'ont pas transmis à leurs enfants, la génération qui est née dans les Trente Glorieuses, ils leur en ont pas parlé. C'est la génération d'après, aux petits-enfants, qu'on raconte ça. Comme pour tous les drames de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il y a souvent une génération qui manque, hein. Il y a une génération de trous. On ne parle pas de la déportation, on ne parle pas des Juifs, on ne parle pas des malheurs de la guerre. Et le manque de nourriture a été un malheur de la guerre. C'est la génération d'après qui a la volonté de transmettre, effectivement, ces idées-là.
Au lendemain de l'armistice, notre pays, qui auparavant apportait d'outre-mer plus de 2 millions de tonnes de denrées alimentaires, fut coupé de ses principales sources de ravitaillement. Un blocus appliqué brutalement et sans discernement par la Grande-Bretagne le privait d'une grande quantité de produits de première nécessité. Frappée directement par les effets du blocus, la population française connaît aujourd'hui toutes les restrictions. Équitablement, la carte d'alimentation répartie entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines indispensables à leur croissance régulière.
Les enfants français sont privés aujourd'hui des vitamines indispensables à leur croissance. C'est tout d'abord dans que furent distribués gratuitement par les soins du Secours National les bonbons vitaminés. Ainsi, la générosité des Français permettra de garantir à la jeunesse une alimentation rationnelle.
Ça a laissé des traces dans les mémoires, mais ça a aussi laissé des traces dans les corps, parce que ces enfants et ados qui ont grandi sous l'occupation en manquant de tout, de vitamines, de viande, ont connu des carences alimentaires qui ont impacté leur développement. Enfin bon, il y a une génération de rachitiques, il y a une génération de gens qui a grandi en étant sous-alimentés. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les années 50, Mendès France instaure le verre de lait de 10 heures pour les petits-enfants qui manquaient de vitamines. Ça a laissé aussi d'ailleurs ces années 50 de très mauvais souvenirs d'huile de foie de morue aux gens.
La petite briquette de lait, ça s'est maintenu très très longtemps. Après le plan Marshall, hein, on importe des petites briquettes de lait venues des États-Unis et on distribuait ça aux enfants à l'école parce qu'on savait que même dans les années 50, hein, alors qu'on est déjà, la guerre est déjà loin, la France ne subit plus de pénurie comme elle a pu connaître pendant la guerre, mais on a toujours un problème de production. On ne produit pas assez et ces produits laitiers coûtent très cher. Et dans les familles pauvres, on n'a pas les moyens de payer un verre de lait aux enfants. Et moi, mon père me raconte toujours que, effectivement, c'était la grande fête à l'école, hein, à l'école primaire. On leur distribuait leur petite briquette de lait qu'ils buvaient pour éviter, effectivement, le manque de calcium et le rachitisme, qui était le fait d'une majorité.
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau. Dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, l'est. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant à qui les vole le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Mais on maudit le long débit, le long débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby. Aussi babée ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons d'eau sont des vies à les dents. Oh, les bidons d'eau sont des vies à les dents. Les bidons d'eau sont des vies à les dents. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle babée. Les v'là tous deux en ménage. Le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc. Et chacun dit, en y allant, à qui les vole le débit de lait. Oh, quel palais le débit de l'eau. Débit de lait si beau, débit de l'eau, bah palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau. Et la babette de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons lait de babé. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la babé jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons chez Bobby, chez Babé, allez donc.
Et voilà les amis, c'est avec Charles Trenet que se termine le premier volet de notre balade au potager de l'occupation. Outre les actualités d'époque, vous aurez pu aussi entendre les extraits d'un documentaire satirique intitulé « Le temps des doryphores » qu'on vous conseille vivement. La suite, c'est au prochain épisode, même lieu, même heure, sur cette même antenne et sur le www.polemix-et-la-voix-off.com où vous pouvez réécouter cette émission. Salut!
Radio, on est là sur 107.7 et pour ça va être la fin du direct après ce petit cours d'histoire qui nous avait été envoyé via le mail. Et on se retrouve demain où ça devrait continuer à parler de maraîchage et on va lancer la playlist. Bon après-midi.